Il vient d'être 18h au studio Kalangu, le journal dans une présentation de Soumana Amadou. Mission ouverture des travaux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Monrovia, plusieurs chefs d'État n'ont pas fait le déplacement. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a bouclé sa visite au Niger. Madame Marie-Pierre Poirier fait le bilan de sa tournée. Après la réaction du président de la Fédération nigérienne de lutte sur sa suspension à la tête de la Fédération, vous entendrez dans un instant le point de vue des frondeurs par la voix du premier vice-président. En partie magazine, comme tous les dimanches, vous suivrez le résumé des faits qui ont marqué la semaine qui s'achève. Bonsoir à toutes et à tous. Le 51e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a démarré ses travaux ce matin à Monrovia, au Libéria. Beaucoup de chefs d'État manquent à l'appel. Détail, Habibou Garba.
Le souverain marocain, le roi Mohamed VI, qui devait défendre la demande d'adhésion du Maroc à l'organisation sous-régionale, n'a finalement pas fait le déplacement et a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Le Niger, lui, est représenté par son ambassadeur. C'est la présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a conduit certains pays à réduire le niveau de leur représentation. Benjamin Netanyahou doit prononcer un discours, tout comme la haute représentante de l'Union européenne, Madame Federica Mogherini. Outre le dossier marocain, les leaders ouest-africains devront se pencher sur la demande du statut d'observateur de la Tunisie et l'accord d'association de la Mauritanie. Le sommet de Monrovia sera aussi marqué par la signature du traité de l'autoroute Dakar-Abidjan et de la pose de la première pierre du projet régional d'énergie électrique. Ce projet concerne la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Au menu de cette rencontre, la succession de la Libérienne Madame Hélène Johnson Sirleaf, présidente en exercice sortante de l'organisation.
La directrice régionale de l'UNICEF était en mission dans la région de Maradi et de Difa au cours de cette semaine. Faisant le bilan de cette tournée, Marie-Pierre Poirier souligne ce que l'UNICEF peut, en collaboration avec les autorités, contribuer à faire dans le domaine scolaire. Marie-Pierre Poirier est au micro de Habibou Garba.
La problématique de l'éducation, nous l'avons plutôt regardée dans la région de Difa à cause du grand nombre de personnes déplacées qui s'ajoutent au village historique. Mais de toute façon, vous avez raison, les taux de participation à l'école au Niger me préoccupent. Parce que, comme nous savons, si un pays veut aller de l'avant, la différence se fera par les compétences des Nigériens et des Nigériennes d'amener ce pays vers l'avant. Donc, les problématiques de déplacement créent des défis supplémentaires puisque ces écoles qui étaient dimensionnées pour une certaine population doivent maintenant accueillir des nombres beaucoup plus importants. Ce sont des pistes de réflexion que l'UNICEF poursuit aux côtés du gouvernement. Nous allons bientôt prendre le lead du secteur éducation et nous entendons être très proches du ministre de l'Éducation et de nos différents partenaires pour vraiment faire ce diagnostic qui permettra aux enseignants nigériens de recevoir le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent faire leur travail.
Marie-Pierre Poirier a également porté un regard sur la situation nutritionnelle dans la région de Maradi. Écoutons sa réaction.
Maradi présente des indicateurs relatifs à la malnutrition parmi les enfants qui sont très préoccupants. À la fois la malnutrition chronique feront des enfants trop petits pour leur taille, pour leur âge et la malnutrition aiguë. J'ai noté ces indicateurs, mais quand on va sur le terrain et quand on visite les cases de santé, les centres de santé intégrés et qu'on voit dans les salles d'attente les mamans qui viennent présenter leurs enfants et qui font le test muac par le bras, on voit vraiment beaucoup de petits-enfants qui présentent des situations bien préoccupantes. Et bon, nous notons aussi que ces indicateurs que nous suivons, nous, UNICEF, depuis un bon nombre d'années, semblent bien montrer une tendance au plateau. Malgré les efforts de tout un chacun, la situation ne semble pas s'améliorer à la vitesse que nous aurions souhaité. Au passage, je salue la vision du Niger parce que ce plan de nutrition est un plan dans les règles de l'art qui aborde la nutrition comme quelque chose de multisectoriel. Certaines personnes pensent que la nutrition, il s'agit de simplement manger. Malheureusement, la chose est beaucoup plus compliquée.
C'était à l'instant la directrice régionale de l'UNICEF à propos recueillis par notre reporter Habibou Garba. Les enseignants membres de la Synergie Cause Niger-Sénaseb projettent d'observer une nouvelle grève de 6 jours à compter de demain lundi 5 juin 2017. En lançant une nouvelle fois un mot d'ordre de grève, les syndicats affirment vouloir, je cite, « contraindre le gouvernement à respecter le protocole d'accord signé le 13 décembre 2016 ». Les négociations entreprises vendredi dernier à la primature entre les responsables des structures syndicales et le comité interministériel chargé de questions éducatives n'ont pas abouti. Certains ressortissants français vivant à l'étranger ont voté aujourd'hui pour le premier tour des élections législatives. Au Niger, les 878 inscrits pouvaient voter à l'ambassade dans l'unique bureau de vote installé dans la salle Jean Rouge. Cette opération a eu lieu de 8h à 18h. En France, les élections législatives françaises de 2017 qui désigneront les députés de la 15e législature de la 5e République française auront lieu les dimanches 11 et 18 juin prochains. Hier, vous avez entendu dans notre journal la réaction du président de la Fédération nigérienne de lutte, Abouba Saïdou Ganda, qui a été suspendu de ses fonctions de président. Aujourd'hui, nous vous proposons le point de vue de ceux qui ont décidé de cette suspension. On écoute le premier vice-président de la Fédération, Ali Amalan, joint ce matin par le studio Kalangou.
C'est lui qui m'a confirmé, lui le président, qu'il a insulté le ministre dans la télé Canal 3. La finilute, il a 7 membres qui sont à l'intérieur. À ce moment, j'ai appelé ces membres-là de venir. De là, arrivé, le président dit qu'il ne peut pas se rencontrer. Notre fédération a 13 membres. Ça nous restait 10 membres. Donc, les 9 membres qu'ils ont convoqués, c'est le président. Le président n'est pas venu rencontrer ces membres-là. C'est à ce moment qu'on a appris la décision de suspendre notre président et on a envoyé au ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse Sport, il a pris acte de notre décision. Comme tous nous sommes désolés, notre texte dit deux caisses, une vacance de poste, on remplace directement. Maintenant, je occupe le poste du président jusqu'à l'Assemblée générale.
Le conseil communal des jeunes d'Agadez a remis ce matin un don constitué de matériel aratoire d'une valeur de 350 000 francs au centre de santé mère et enfant d'Agadez. Cette somme a été collectée par les jeunes de la commune d'Agadez lors d'un concert humanitaire organisé le 6 mai dernier avec l'artiste Al-Radik Soja. Pour le vice-président du Conseil des jeunes d'Agadez, Mohamed Younous, c'est avec ce genre d'initiative qu'on peut construire le Niger. On l'écoute.
Et c'est donc, comme vous le voyez, c'est constitué de matériel aratoire, de seaux, de l'eau, de jus, de savon, d'homo, etc. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les bonnes volontés qui nous ont accompagnés pour cette initiative. Nous croyons qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser tout à l'État. Des bonnes volontés peuvent aider, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Il faut être solidaire, il faut être envers les malades, il faut être... C'est l'occasion aujourd'hui pour nous d'initier cette activité pour venir apporter notre modeste contribution au niveau de ce centre. Voilà. Quand on a donné les dons là, quand on a vu les sourires des patients, ça nous a fait, nous aussi, fait sentir. Vraiment, c'est le moment de les remercier et de dire aux d'autres bonnes volontés de venir aider. Le Niger, c'est la solidarité, c'est l'entraide. C'est avec ça qu'on peut construire le Niger.
C'était le vice-président du Conseil des jeunes d'Agadez au micro de notre correspondant Moussa Mamma. En sport, poursuite de la 23e journée du championnat national première division phase retour qui a débuté depuis le mercredi passé. Hier, deux matchs étaient à l'affiche. US Gendarmerie Nationale contre AS Police et Olympique face à Jangorzo FC. L'AS Police a battu l'US Gendarmerie 1-0 et l'Olympique a pris l'avantage sur le Jangorzo FC 2-1. Aujourd'hui, dimanche, il y a la rencontre AS Garde Nationale, AS Sonidep et l'autre match, c'est l'AS Douane contre l'AS Nigelec.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
Je vous invite à présent à suivre la partie magazine de ce journal. Elle est essentiellement consacrée à la synthèse des faits ayant marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Le résumé avec Achman Assina.
Cette semaine qui s'achève a été marquée par des attaques meurtrières sur le territoire du Niger. Samedi 27 mai dernier, aux environs de 22h, des individus armés non identifiés ont attaqué le poste de police de Petel-Kolé, village situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, dans le département de Bankilaré, région de Tel Abéri. Officiellement, le bilan de cette attaque est de 3 morts, dont 2 policiers et 1 civil et 3 autres policiers blessés. Selon le même communiqué de la police nationale, le bureau du commissaire où était stocké des armes a été incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants qui ont aussi endommagé 5 véhicules, dont 2 de la police et 3 appartenant à des policiers. Le 31 mai dernier, c'est la préfecture d'Abala, région de Tel Abéri, qui a été la cible des individus armés non identifiés aux environs de 19h. Selon des témoins sur place contactés par le studio Kalangou, les assaillants sont venus à bord de 5 véhicules pick-up aux couleurs et aux insignes de la gendarmerie nationale. Bilan de l'attaque, 6 soldats tués, 4 gardes nationaux et 2 gendarmes. Les assaillants ont également emporté 3 véhicules, 2 de la gendarmerie et 1 autre de la garde nationale. Ils ont ensuite abandonné ces derniers à 8 km. Des armes ont été également emportées. Mais selon des sources sécuritaires, des opérations de riposte et de ratissage menées par l'armée nigérienne, appuyées par l'armée de l'air, ont permis de neutraliser l'essentiel des assaillants ayant mené l'attaque d'Abala. Le matériel emporté a été récupéré. Selon BBC Afrique, 6 membres présumés du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest Mujao, accusés de prendre part à cette attaque d'Abala, ont été arrêtés. Un autre fait ayant marqué la semaine, c'est le transfert des repentis de Boko Haram dans de nouveaux camps situés à Goudoumaria, à environ 190 km de la ville de Diffa. Le transfert a été effectué dans la discrétion totale jeudi dernier, aux environs de 4h du matin, entouré d'un important dispositif sécuritaire. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey a examiné lundi 29 mai dernier, au fond, l'affaire qui concerne le président de la coalition de l'opposition FRDDR, Amadou Ali Djibo Dimaxa. Le juge a mis l'affaire en délibéré au 6 juin prochain. Réaction de maître Marc Lebihan, un des membres du collectif d'avocats de Maxa.
Il y a eu les débats au fond ce matin et je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure parce que rien que la procédure de flagrant délit empêche que d'autres preuves soient versées, les preuves doivent être présentes. Alors aujourd'hui, moi je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer Max puisqu'il n'y a aucun élément qui fonde la poursuite dans ce dossier. Si on le rend devant la justice pour un complot proposé alors qu'il est seul, il n'y a pas complot, il n'y a pas d'action. Il faut que finalement, force revienne à la loi et rien qu'à la loi. Nous avons demandé une liberté provisoire face à la faiblesse de l'argumentation développée par le ministère public. Malheureusement, le juge a décidé qu'il gardera prison jusqu'au 6 juin, le jour où il va vider son délibéré. Au regard des pièces qui sont versés au dossier, à la qualification des faits, le juge est pratiquement obligé de prononcer une relaxe et un acquittoire.
L'actualité de la semaine, c'est aussi le rebondissement de l'affaire dite des bébés importés. Selon leur entourage, tous les condamnés ont été transférés en prison jeudi dernier pour purger leur peine. Les hommes ont été conduits à la prison de Saï. Les femmes de leur côté ont été transférées à la prison de Kolo. Parmi elles, l'épouse de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, lui-même condamné par contumace. De son côté, l'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi portant révision technique de certains articles de la Constitution sur les délais électoraux par 109 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Et puis, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a effectué une visite de travail à Niamey le 30 mai dernier. Entre autres points, au centre des entretiens avec son homologue Issoufou Mahamadou, le renforcement des relations bilatérales et le contexte sécuritaire au Sahel et de l'espace sahélo-saharien. Enfin, le conseil des ministres du jeudi 1er juin dernier a limogé le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, Kamed Abdoulaye, qui était l'une des revendications des étudiants de cet institut qui était en grève depuis longtemps.
C'est la fin de cette édition dominicale du studio Kalangou. Je vous remercie de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.